Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du mercredi 10 avril 2024. Au Togo, les élections législatives reportées sont désormais fixées au 29 avril. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye ordonne un vaste état des lieux économiques.
Il se dit depuis quelque temps que le taux d'endettement du Sénégal est extrêmement élevé.
Ibrahim Mabakoum, journaliste et politologue sénégalais, nous situera dans la partie magazine sur les orientations des nouvelles autorités de Dakar. En Éthiopie, un opposant, Oromo, récemment libéré de prison, a été tué par balle. Israël poursuit sans répit son offensive sur le Hamas à Gaza au premier jour de l'Eid el-Fitr. Les dirigeants haïtiens trouvent un accord politique pour former un conseil de transition. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant le journal. Au Togo, les élections législatives et régionales se tiendront le 29 avril, selon le communiqué de la présidence publié à l'issue d'une réunion gouvernementale mardi. Ces scrutins avaient été reportés dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle constitution à la fin du mois de mars, le point avec Nani Talani.
Date pour les élections législatives et régionales, lundi 29 avril, indique simplement le communiqué de la présidence. Les scrutins devaient avoir lieu le 20 avril, mais le gouvernement togolais les avait reportés pour mener des consultations sur la nouvelle constitution, considérée par plusieurs partis d'opposition comme une manœuvre pour maintenir le président Fornia Singbe au pouvoir plus longtemps. La déclaration du gouvernement est intervenue quelques jours seulement avant que les partis d'opposition n'organisent des manifestations prévues les 11, 12 et 13 avril contre le report des élections et la réforme constitutionnelle qui permet à l'Assemblée nationale d'élire directement le président sans débat. Le gouvernement a interdit hier ces manifestations, mais le parti d'opposition Alliance nationale pour le changement et d'autres groupes soutiennent que des manifestations auront tout de même lieu vendredi et samedi. L'opposition appelle le gouvernement à revenir sur sa réforme de la Constitution. Elle n'a pas encore réagi au sujet de la nouvelle date des élections législatives et régionales.
Et un journaliste togolais écroué depuis le 28 mars, après un article sur la mort d'un proche du président togolais, Fornia Singbe a été remis en liberté hier. Apollinaire Mewenemese, directeur de publication du journal La Dépêche, âgé de 71 ans, était poursuivi pour sept chefs d'inculpation, dont conception et publication de nouvelles fausses aux fins d'inciter la population ou l'armée à se soulever contre l'État. Au Libéria, le Sénat a approuvé mardi la création d'un tribunal chargé de juger les crimes de guerre afin de rendre justice aux victimes de graves abus commis pendant les deux guerres civiles qu'a connues le pays. Cette initiative a été saluée par les militants et les groupes de la société civile qui ont demandé que les auteurs des crimes commis pendant les deux guerres entre 1989 et 2003 soient davantage tenus responsables de leurs actes. En Éthiopie, un leader du Front de Libération Oromo, Beth Urgisa, a été retrouvé tué par balle ce matin, quelques heures après avoir été arrêté par des forces gouvernementales à Meki, dans le centre du pays. Claire Morizibou.
La famille de Baté Urgesa a confirmé qu'il avait été découvert mort sur une route des faubourgs de Meki ce matin vers 9h. Ses proches constatant qu'il avait été tué par balle. Hier, l'opposant avait été arrêté par des forces gouvernementales dans un hôtel de Meki, puis emmené immédiatement dans un centre de détention, a déclaré Lemi Gemeshu, porte-parole du Front de Libération Oromo. Baté Urgesa avait été libéré sous caution il y a un mois à peine, après avoir été arrêté en février en compagnie d'un journaliste français. Les deux hommes ont été accusés de conspirer avec des groupes armés pour créer le chaos en Éthiopie. Baté Urgesa était un dirigeant de l'OLF, organisation qui défend la cause des Oromo, le plus nombreux des quelques 80 peuples que compte l'Éthiopie. La Commission éthiopienne des droits humains réclame une enquête rapide, impartiale et exhaustive sur sa mort afin que, je cite, les responsables rendent des comptes.
La police sud-africaine a annoncé aujourd'hui avoir procédé à l'arrestation de 6 suspects une semaine après le meurtre du footballeur Luke Fleurs, qui évoluait aux Kaizer Chiefs de Johannesburg. Les arrestations ont eu lieu tôt ce mercredi dans le township de Soweto, au sud-ouest de Johannesburg, 2 jours après la découverte du véhicule de Fleurs, selon le porte-parole de la police. Le défenseur central de 24 ans avait été visé par des tirs d'armes à feu la semaine dernière, alors qu'il faisait le plein de sa voiture dans une station service de la banlieue nord-ouest de la ville et avait été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les responsables politiques haïtiens ont trouvé un accord pour former un conseil de transition présidentielle de 22 mois. Ce conseil sera chargé de restaurer l'ordre dans ce pays des Caraïbes en proie à l'instabilité politique et la violence des gangs. Le point avec Rosine Monezero.
Ce conseil de 9 membres, 7 votants et 2 observateurs intègre des représentants des principaux partis du pays ainsi que du secteur privé et de la société civile. Les futurs membres du conseil ont fait parvenir l'accord politique et le décret d'entrée en vigueur à la communauté des Caraïbes, CARICOM, a indiqué un responsable politique. Sa première tâche consistera à choisir un premier ministre qui, en collaboration avec le conseil, désignera un gouvernement pour conduire le pays vers des élections démocratiques, libres et crédibles, selon l'accord. Ce nouveau conseil, dont le mandat prendra fin le 7 février 2026, souhaite s'installer au sein du Palais national, dans le centre de la capitale Port-au-Prince, attaqué à plusieurs reprises ces dernières semaines par les gangs. Il doit remplacer le Premier ministre contesté Ariel Henry, qui a annoncé sa démission le 11 mars. Fin février, 2 puissants gangs haïtiens, qui contrôlent plus de 80% de la capitale et des axes routiers cruciaux, se sont associés pour attaquer les postes de police, les prisons, l'aéroport et le port, dans le but d'évincer Ariel Henry. Ce dernier est empêché de rentrer dans son pays depuis son voyage officiel au Kenya, où il était parti s'assurer de la participation de Nairobi à la mission internationale de sécurité en Haïti, soutenue par les Nations Unies.
L'actualité américaine, Joe Biden a célébré une amitié florissante avec le premier ministre japonais Kishida. Le président américain a reçu ce mercredi avec les honneurs le premier ministre japonais, un allié clé dans sa stratégie de compétition avec la Chine. Le premier ministre de 66 ans est le premier dirigeant japonais à recevoir ainsi les honneurs d'une visite d'État à Washington depuis Shinzo Abe en 2015. Demain jeudi, Fumio Kishida doit s'adresser aux deux chambres du Congrès américain avant d'être reçu à nouveau par le président Biden aux côtés du président philippin Ferdinand Marcos. Le chef républicain de la Chambre américaine des représentants, Mike Johnson, a refusé de s'avancer aujourd'hui sur l'avenir de l'aide à l'Ukraine, assurant que les négociations étaient toujours en cours, malgré les appels répétés à agir. Une enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kiev réclamée par le président démocrate, Joe Biden, est bloqué au Congrès américain depuis des mois. Ces fonds ont été approuvés au Sénat en février, mais des partisans de Donald Trump à la Chambre refusent d'examiner en l'état le texte en raison, entre autres, d'un différend plus large sur l'immigration. Des bombardements meurtriers ont visé la bande de Gaza aujourd'hui dans le cadre de l'offensive d'Israël contre le Hamas, au moment où de nombreux Palestiniens se sont rassemblés pour prier au milieu des ruines au premier jour de l'Eid el-Fitr. Jacques Aristide.
Le ministre Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, affirme que le Hamas est militairement vaincu dans la bande de Gaza. « Nous sommes sur la bonne voie et nous ne nous arrêterons pas. Nous entrerons à Rafah, nous retournerons à Khan Younes », a dit le dirigeant d'opposition aujourd'hui. Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas palestinien, a fait état sur la chaîne Al Jazeera de la mort de 3 de ses fils et de plusieurs petits-enfants dans une frappe israélienne à Gaza hier. Pour sa part, le président américain Joe Biden a qualifié d'erreur la conduite de la guerre à Gaza par le premier ministre Benjamin Netanyahou. « Ce que je demande, c'est que les Israéliens appellent à un cessez-le-feu qui les autorise pour les 6 ou 8 prochaines semaines un accès total à la nourriture et aux médicaments entrant dans le pays », a déclaré Joe Biden dans un entretien diffusé hier par la chaîne hispanophone Univision. À travers la bande de Gaza, les Palestiniens se sont réunis aujourd'hui pour prier à l'occasion de la fête qui marque la fin du mois de jeûne musulman du Ramadan.
Le gouvernement suisse organisera les 15 et 16 juin une conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine dont l'objectif est de constituer un cadre favorable pour aboutir à une paix durable globale en Ukraine ainsi qu'une feuille de route concrète pour la participation de Moscou au processus de paix. Plusieurs responsables russes ont déjà averti que Moscou ne comptait pas participer à cette conférence, estimant que la Suisse a renoncé à sa neutralité dans le conflit ukrainien. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, à la Minute Éco avec moi, Madou Moufa.
Au Sénégal, environ 200 voyageurs ont repris dans la nuit de mardi à mercredi le bateau entre Dakar et la Casamance après des mois d'arrêt. Les autorités ont suspendu en juin 2023 la liaison assurée par les trois bateaux de la compagnie Kosama dans un contexte d'agitation meurtrière après la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. L'arrêt de la desserte a été sévèrement éprouvé en Casamance, région fertile mais enclavée. L'Organisation mondiale du commerce prévoit une reprise du commerce mondial cette année, mais les conflits, les tensions géopolitiques et l'incertitude des politiques économiques font peser sur les prévisions des risques de détérioration importants, a-t-elle indiqué mercredi. La croissance en volume du commerce mondial des marchandises devrait être de 2,6% en 2024 contre une prévision de 3,3% en octobre, après avoir baissé l'an dernier selon les prévisions annuelles de l'OMC. Le G20 ne peut pas se permettre de reléguer au second plan le dérèglement climatique, a averti mercredi le patron de l'ONU Climat, appelant de ses vœux un nouvel accord entre pays riches et en développement. La COP29, prévue en novembre en Azerbaïdjan, doit notamment établir le nouveau montant de l'aide publique climatique des pays riches en lieu et place des 100 milliards de dollars par an actuel.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les sélections féminines nigériennes et zambiennes de football représenteront l'Afrique au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Les Super Falcons du Nigeria, 11 fois championnes d'Afrique, participeront à leur 5e tournoi olympique de football féminin Paris 2024 après un match nul et vierge 0-0 à Pretoria en Afrique du Sud hier contre les Banyama Banyama, l'équipe nationale féminine sud-africaine et championne d'Afrique en titre. La Zambie est arrivée à bout du Maroc dans le cadre du 4e et dernier tour des qualifications. Le Nigeria partage le groupe C avec l'Espagne, championne du monde en titre, le Japon et le Brésil. La Zambie est dans le groupe B avec les États-Unis, l'Australie et l'Allemagne.
Toujours aux Jeux Olympiques 2024, la Sud-Africaine Tembi, nommée meilleure buteuse des qualifications.
Malgré la non-qualification de l'Afrique du Sud, Tembi Gatlana peut se consoler avec ce titre. L'attaquante des Banyama Banyama a pu claquer 5 buts à l'issue des 4 tours des qualifications au JO de Paris 2024. Elle termine donc devant la Nigériane Rachidat Adibadé, la Zambienne Barbara Bonda et la Ghanéenne Evelyne Badou qui totalisent chacune 4 buts.
Ligue Europa, Marseille affronte Benfica avec le Congolais Mbemba, mais sans le Sénégalais Ismaïla Sarr.
L'Olympique de Marseille a en effet publié la liste des joueurs qui affrontent Benfica en Ligue Europa ce jeudi 11 avril. Forfait depuis sa blessure contre le Paris Saint-Germain le 31 mars dernier, Chancel Mbemba, défenseur congolais de la RDC, a été retenu pour cette rencontre capitale. Il a fait son retour à l'entraînement hier. L'Olympique de Marseille ne pourra pas par contre compter sur l'international sénégalais Ismaïla Sarr, qui est toujours blessé.
NBA, pour terminer, les Bucks font tomber les Celtics. Victoire cruciale des Warriors face aux Lakers. Minnesota ne flanche pas. Phoenix trébuche.
Les Bucks de Milwaukee ont obtenu un succès de prestige mardi en NBA 104-91 face aux Celtics de Boston, déjà assurés de terminer numéro 1 de la saison régulière, mais Giannis Antetokounmpo s'est blessé au mollet gauche. pour la 9e place à l'Ouest, synonyme d'avantage du terrain pour le premier match de barrage avant les playoffs. Les Warriors de San Francisco ont battu les Lakers de Los Angeles 134 à 120.
Page de sport VOA Afrique, signé Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, le tout premier conseil des ministres présidé par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a eu lieu hier au palais présidentiel de Dakar. D'après le compte-rendu de ce conseil, le chef de l'État a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en œuvre le projet de transformation systémique du Sénégal, décliné en 5 orientations majeures. Pour une analyse de Mohamed Oumfa, adjoint à Dakar, le journaliste et politologue Ibrahima Bakoum.
Il se dit depuis quelque temps que le taux d'endettement du Sénégal est extrêmement élevé et que, à la limite, il y aurait stress du côté des finances. Donc, pour plus de prudence, ils se disent, nous voulons savoir exactement qui a fait quoi et surtout qu'est-ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup de recrutements durant ces dernières années. Généralement, quand une élection arrive, évidemment, le pouvoir a tendance à faire des recrutements dans tous les sens. Il y a eu également des augmentations de salaire. Tout ça impacte le budget. Alors, ils ont raison de dire, nous voulons savoir où est-ce que nous en sommes avec les finances, que nous disions aux Sénégalais, voici ce que nous avons trouvé.
L'un des points soulignés par le Conseil des ministres, projet du président Diomaye Faye, c'est la souveraineté économique du Sénégal. Ce projet de souveraineté, il s'agit exactement de quoi?
Bon, je pense qu'ils sont dans la continuité d'un débat qu'il y a eu ici il y a quelques années. On disait certains contrats d'exploitation du pétrole et du gaz qui aurait été ficelé de manière pas très claire et qu'il y aurait une implication du frère du président Macky Sall dedans. En fait, s'il y a eu des mauvais contrats et tout, qu'il veuille les renégocier, on comprend. Mais renégocier un contrat, c'est pas sûr facile. Le Sénégal a-t-il les moyens financiers, les moyens techniques et technologiques d'exploitation de son pétrole et de son gaz? Je suis pas en douter.
Le cinquième point du projet de transformation systémique du Sénégal, souligné hier en Conseil des ministres, c'est la consolidation de l'unité nationale et le renforcement de la sécurité et de la paix. Y a-t-il un projet d'unité nationale et de paix et de stabilité du Sénégal?
Il y a eu de la frayeur quelques mois avant la présidentielle. Ça allait dans tous les sens. Il y avait des menaces. L'espace public était occupé par un discours très violent. Et il y a même eu des formations qui ont été faites pour vraiment éviter ces discours de haine. C'est vous dire que donc à quel point c'était allé très loin. La présidentielle est passée. Mais quand il parle de cohésion, il y a peut-être besoin même parmi les adversaires qu'il y avait peut-être des retrouvailles, on ne sait jamais, il peut y avoir des retrouvailles politiques. Ensuite, la question casamançaise qui est là, qui n'est plus comme il y avait quelques années, avec une violence, avec des attaques, avec des trucs, mais bon, l'armée est toujours sur place, on veille, mais monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko est le maire désigné un genre de stratégique dans la Casamance. Donc on espère que peut-être une sorte de proximité et de connaissance qu'il y a de rapprochement pourrait faire en sorte qu'on arrive à une paix définitive et qu'on oublie complètement cette histoire du rétentissement en Casamance, c'est possible.
Et enfin, le nouveau pouvoir est certainement attendu à ce sujet, la question de l'emploi et de la lutte contre la cherté de la vie.
La création d'emplois devient difficile. Il faut absolument qu'il y ait une bonne formation parce que l'employé, il a besoin de compétences. S'il ne trouve pas la compétence là, il ne recrute pas. Et s'il n'y a pas de recrutement, évidemment, il y a cette question de chômage. Donc comment l'État va régler ça? 75% de la population a moins de 35 ans et il y a très peu de gens qui ont des qualifications diverses pour répondre à la demande des employeurs. Parce que nous sommes plus un pays de littéraires que de pays de scientifiques, par exemple.
Ibrahima Bakoum, journaliste et politologue sénégalais.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Burkina Faso, les musulmans célèbrent ce mercredi la fête du Ramadan, une célébration placée sous le signe de l'espoir que le pays puisse retrouver sa paix et sa stabilité d'antan dans plusieurs parties de la capitale burkinabé, ainsi que dans des villes de l'intérieur du pays. Les musulmans ont prié pour la fin du terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Mm-hmm. À la place de la nation, des milliers de musulmans ont prié pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Comme ici, plusieurs grands espaces sont occupés par les musulmans en ce jour marquant la fin du mois de jeûne de Ramadan. La paix et la stabilité, c'est le vœu formulé par les musulmans lors de ces prières. Moussa Kouanda est le président de la communauté musulmane du Burkina.
Nous invitons au Burkina de ne pas personnaliser cette guerre. La guerre n'est pas pour ni président, ni ministre, ni la communauté musulmane, ni la catholique. La guerre est nationale. C'est notre guerre qu'on nous a imposée. Si on perd, on doit pleurer ensemble. Si on gagne, on doit applaudir ensemble. Et tout le Burkinabé prend cette guerre-là comme la tienne. Il n'y a personne qui est désigné pour faire la victoire seule. C'est le peuple ensemble qui font la victoire. Que chacun s'implique de cette guerre-là au fond de cœur pour qu'on puisse conquérir notre pays.
Aux côtés des musulmans, d'autres confessions religieuses, les catholiques, les protestants et les autorités coutumières, tous prônent la paix dans le pays. Monseigneur Prosper Kontiebou, archevêque de Ouagadougou.
Nous voulons aussi exprimer notre fraternité, notre communion, notre solidarité. Nous prions le Seigneur d'exaucer leurs vœux pour que le Burkina retrouve la paix, retrouve la cohésion sociale.
La guerre avance sur le terrain et le gouvernement estime que les communautés religieuses jouent leur rôle. Bassolma Bazier, ministre de la fonction publique.
Aujourd'hui, en faisant le bilan, nous avons fait un fort et grand pas en avant. Et de ce point de vue, nous tenons à féliciter l'ensemble des communautés, notamment les communautés musulmanes. Ils ont toujours su inviter les uns les autres à se tenir la main afin que nous puissions avancer. Donc il faut le leur reconnaître, les féliciter pour cette façon de faire, mais aussi les inviter à aller de l'avant, à maintenir le cap.
Nous pouvons dire que notre pays ne se sent pas, peut-être qu'il est dans une période de convalescence. Et notre souhait est que 2024 soit même la fin de cette convalescence, afin que l'ensemble des communautés puissent vaquer librement leurs occupations sur n'importe quel point du territoire.
En cette période difficile que traverse le pays, les musulmans ont invité les populations à fêter dans la sobriété, en ayant une pensée pour les victimes du terrorisme. Depuis près d'une dizaine d'années, le pays est confronté à une grave crise sécuritaire, ayant fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La Maison-Blanche accuse le Hamas de ne pas être parvenu à un cessez-le-feu avec Israël avant la fin du Ramadan, alors que Washington se prépare à une réunion de haut niveau sur les plans d'Israël d'envahir Rafah et fait face à des questions persistantes sur l'assassinat de travailleurs humanitaires par les forces israéliennes. C'est un reportage d'Anita Powell, le récit est de Rosine Monevero.
La Maison-Blanche a fait savoir qu'Israël est prêt à un cessez-le-feu après 6 mois de combats brutaux, mais que les dirigeants du Hamas ne sont pas disposés à respecter les conditions d'Israël et à libérer certains des otages saisis lors de l'attaque du 7 octobre contre Israël. Cette attaque a provoqué une campagne militaire israélienne qui a rasé la plus grande partie de Gaza. Jack Sullivan est conseiller à la sécurité nationale des États-Unis.
Il pourrait y avoir un cessez-le-feu en place aujourd'hui qui s'étendrait sur plusieurs semaines et qui pourrait être prolongé si le Hamas était prêt à libérer certaines de ces personnes. Il faut donc attirer l'attention là où il le faut, c'est-à-dire sur le fait que le monde devrait dire au Hamas « c'est le moment, allons-y, obtenons ce cessez-le-feu, nous sommes prêts, je crois qu'Israël est prêt ».
Les membres des familles de certains otages américains ont rencontré des représentants de la Maison-Blanche mardi pour faire pression en faveur de leur retour. Jonathan Dekel Chen est le père de l'otage américain Segui Dekel Chen.
Nous avons entendu dire qu'il y a un accord sur la table que toutes les parties acceptent et avec lequel elles sont prêtes à travailler. Nous attendons maintenant et le monde attend que le Hamas dise oui. C'est à eux de jouer.
L'administration Biden a commencé à appeler à un cessez-le-feu il y a un mois, mais cet appel est loin de faire l'unanimité parmi les Israéliens. Lundi, un groupe a manifesté près de la frontière de Gaza pour demander le contraire. Yael Lasri, manifestante.
Au lieu de dire à la communauté internationale de faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages, ils font pression sur Netanyahou et notre gouvernement. Ce n'est pas nous qui avons commencé la guerre. C'est eux, d'accord? Ils ont assassiné 1200 de nos concitoyens.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou semble également déterminé à poursuivre ses plans d'attaque de la ville de Rafah dans le sud du pays, malgré les objections de Washington. Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien.
Nous allons achever l'élimination des bataillons du Hamas, y compris à Rafah. Aucune force au monde ne nous arrêtera. De nombreux facteurs entrent en jeu, mais cela ne servira à rien, car cet ennemi, après ce qu'il a fait, ne recommencera pas.
Les analystes affirment que la diplomatie menée par les États-Unis est essentielle pour mettre fin à ce conflit et avertissent que le Hamas, qui a des racines profondes dans la région et des liens étroits avec l'Iran, est un ennemi redoutable dont l'attrait pourrait s'accroître face à l'assaut d'Israël contre Gaza et contre les groupes soutenus par l'Iran dans la région. Mérissa Kourma est directrice du programme Moyen-Orient au Wilson Center.
Il reste extrêmement populaire dans toute la région, ce qui est également très déconcertant, car il s'agit d'une forme de radicalisation qui devrait préoccuper les États-Unis et leurs alliés.
Mais alors que les bombes israéliennes pleuvaient mardi, non pas sur Gaza, mais sur le Liban voisin, la perspective de paix semble très éloignée.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Les électeurs américains affirment que l'économie est l'une de leurs plus grandes préoccupations cette année. Scott Stern examine comment les candidats Joe Biden et Donald Trump parlent d'une économie qui, selon le ministère américain du Travail, crée des emplois et augmente les salaires. Le récit est de Ginny Niwa.
Teresa Labs, électrice du Wisconsin, s'inquiète de l'économie américaine et de la façon dont sa famille fera face à l'augmentation des coûts.
Il est difficile pour une famille de travailleurs comme la nôtre de faire ses courses sans dépenser 100 à 150 dollars chaque week-end en se demandant de quoi ai-je besoin aujourd'hui, que puis-je acheter lors de mon prochain passage. Dans une semaine, le prix de l'essence ne cesse d'augmenter et je ne comprends pas pourquoi.
Madame Lab dit qu'elle votera pour Joe Biden dans l'espoir qu'il continuera à travailler encore plus dur au cours des 4 prochaines années pour faciliter la vie des familles de travailleurs. Cette anxiété économique alimente également le soutien à Donald Trump. Fay Bowling, électrice de Géorgie, affirme que l'économie actuelle est la pire qu'elle ait jamais vue.
Je suis une grand-mère de 73 ans et j'ai 17 petits-enfants. Et je vous assure que je n'ai jamais vu de ma vie une économie aussi mauvaise qu'aujourd'hui. Et je suis tout à fait pour Donald Trump. Et je veux que tout le monde sorte. Et je veux une vague rouge en novembre. Parce que nous devons reprendre la Chambre, le Sénat et la présidence pour que ce pays reste grand.
L'économie est l'un des principaux sujets de préoccupation des électeurs lors de cette élection présidentielle. La majorité de personnes interrogées le mois dernier dans le cadre d'un sondage, Harvard Caps, Harris, ont déclaré que l'inflation était le problème le plus important qui les touchait personnellement. Cette inquiétude survient alors que le ministère américain du Travail a annoncé des embauches supérieures aux prévisions au premier trimestre de l'année. Les secteurs de la santé, de l'administration et de la construction ayant créé le plus d'emplois, le taux de chômage étant inférieur à 4% et les salaires continuant d'augmenter. Monsieur Trump affirme que l'économie américaine s'effondre dans un cloaque de ruines et a déclaré lors d'une collecte de fonds en Floride qu'il était l'homme qu'il fallait pour y remédier.
Les gens veulent du changement. Les riches le veulent, les pauvres le veulent, tout le monde veut du changement. Le pays va vraiment mal. Nous sommes la risée du monde entier. Nous allons obtenir ce changement très rapidement.
Lors d'un rassemblement dans le Nevada, Joe Biden a assuré qu'il était en train de redresser une économie qui a été touchée par le coronavirus et par les réductions d'impôts accordées par Trump aux Américains les plus riches.
Les choses bougent. Le chômage a baissé de façon spectaculaire. Plus de Nevadains travaillent aujourd'hui que jamais dans l'histoire du Nevada et des milliers de villes à travers toute l'Amérique assistent à ce grand retour.
Joe Biden affirme que l'économie s'améliorera également grâce à son plan d'annulation de certains prêts étudiants.
Les amis, je ne cesserai jamais d'alléger la dette étudiante des Américains laborieux, et c'est uniquement dans l'intérêt de l'Amérique que nous le faisons. Et encore une fois, c'est pour le bien de notre économie. Elle est de plus en plus forte.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Joselle Mauricin. Je vous souhaite une excellente soirée.